Radio Estable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Ce qu'on voit là, ce sont juste des déchets, des poubelles. S'il y avait des bennes, au moins, on jetterait nos déchets dedans, et pas dans le canal.
C'est en Égypte que cette scène se répète tout le temps. Au Caire, savez-vous combien de sacs plastiques sont utilisés tous les ans dans ce pays, l'Égypte ? 12 milliards, mais sérieusement. Pourtant, vous verrez qu'on commence à faire des efforts. En tout cas, on essaye doucement et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Ce soir, c'est nous qui servons d'escale à la Fondation Tara Océan qui a décidé de naviguer sur les fleuves pour comprendre tout simplement d'où viennent les déchets plastiques de la mer et où doivent se concentrer nos efforts. Sinon, sous les radars est au Mexique, en Inde et en Allemagne avec Amélie Perrier, vous l'avez entendu, 18h50, le cinéma en VO, Eva Béton a vu Parasite, bien sûr, la Palme d'Or qui sort en France ce mercredi, 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, où au Danemark, la gauche a décidé de piocher sur les terres de l'extrême droite pour remporter les élections à venir, le monde est vaste. Et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
En cette deuxième journée sans plastique de France Inter, donc que l'on décline aussi évidemment au-delà de chez nous, il y a un chiffre important à rappeler. 80% des déchets plastiques en mer sont d'origine terrestre. Donc, avant d'arriver dans la mer, forcément, ils ont été jetés, on va dire, bien plus près, charriés par les fleuves, bien plus près. Et c'est cette origine-là que la Fondation Tara Océan vient chercher en explorant pendant 6 mois 10 grands fleuves européens. Bonsoir Romain Troublé.
Bonsoir.
Directeur général de la Fondation Tara Expédition. Vous avez commencé le 23 mai, c'est ça, avec la goélette Tara. Littéralement, vous cherchez la source, en fait. C'est ça l'idée, en fait.
L'idée, c'est de chercher la fuite, ouais. La source ou la fuite de plastique de notre quotidien. Et ça fait 10 ans qu'on s'intéresse au stock dans la mer. Mm-hmm. Comment on peut mesurer ça et on a décidé de s'intéresser maintenant au flux,
alors,
ce qui se coule.
Et vous allez où ? Alors, j'en ai une petite idée. La Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Tage qui est au Portugal, le Tibre en Italie, l'Ebre en Espagne. Et c'est intéressant que vous alliez chercher en Europe, en fait, parce qu'on aura l'exemple de l'Égypte tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des pays qui sont très problématiques, mais c'est bien aussi de balayer devant notre porte, en fait. Hein.
Je crois que oui. Je crois que chaque fois qu'on parle du plastique, on parle souvent de ce continent de plastique dans le Pacifique. On parle de contrées d'Asie du Sud-Est où c'est beaucoup de plastique, mais en fait, il y en a devant notre porte, effectivement, et la Méditerranée est aussi polluée en plastique que ces fameux continents de plastique du Pacifique. Donc,
les chiffres sont très impressionnants, parce qu'il paraît qu'après la Chine, chez nous, c'est 600 000 tonnes par an.
Oui, c'est une
chez
estimation.
Nous, à l'Europe, hein, au sens
l'Europe.
Large. Hein. Donc c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a de très mauvais élèves ou pas? Ou est-ce que nous sommes tous collectivement mauvais élèves, au fond?
Moi, je crois qu'on est tous collectivement mauvais élèves, en termes de pays européens, en termes de citoyens européens. On est tous consommateurs de plastique, on va tous acheter nos choses dans le magasin, donc on fait tous des choix tout le temps, en fait, quand on va acheter des choses, et c'est peut-être là que ça se passe aussi, le début de l'histoire de ce fléau plastique.
Qu'est-ce que vous allez chercher, Romain Troublé? Qu'est-ce que vous allez voir? Les pièces à conviction, en gros, c'est quoi?
Ouais, c'est de comprendre d'où ça vient. Parce que pour essayer de régler ce problème, cette fuite, en fait, qui dans le monde, on estime à 6 à 8 millions de tonnes par an qui couleraient de la terre vers la mer.
Il paraît que c'est un camion benne par minute,
ouais,
en fait.
À peu près, ouais.
Ce qui est quand même assez terrible.
C'était terrible, ouais. Et pour comprendre d'où ça vient, personne ne sait vraiment par où ça passe, en fait. Ou par quel moment, par quelle action, par quelle mégarde, par quelle action de citoyen, d'entreprise ou de collectivité locale, on est tous concernés. Ça a fini par arriver dans la nature et petit à petit se retrouve dans de l'eau, dans un ruisseau qui coule, et etc. Les rivières, les fleuves, jusqu'à la mer.
Donc on ne sait pas, au fond, on ne sait pas qui est le premier responsable.
On a du mal à savoir.
On ne sait pas qui est le patient zéro là-dedans.
On a du mal à diagnostiquer l'origine du mal. Ouais.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que on ne parle pas seulement des bouteilles en plastique et des sacs plastiques qu'on pourrait trouver effectivement sur les fleuves et qui vont finir dans le fameux continent de plastique. On parle de choses qui sont très petites. On parle de microplastiques. On parle même de nanoplastiques.
Bien sûr.
De toutes ces toutes petites choses, en fait, que vous décelez comment ce qu'on appelle le plancton de plastique?
Alors, ça fait 10 ans qu'on s'intéresse à ces microplastiques, que la taille d'un grain de riz, par exemple, et qu'on le mesure partout avec Tara et les scientifiques concernés du CNRS, etc. Qu'on mesure partout avec des filets, comme on pêche du plancton, quand on pêche du poisson, on a un filet. Là, le filet, il fait 0,3 mm de carré, de grille. Et donc, on pêche des petits plastiques comme ça, et on se prend compte de notre impuissance, parce que si on se dit qu'on va nettoyer ça, ça veut dire qu'on va nettoyer tout avec. Et le plancton qui nourrit les poissons, etc. etc. Et donc, le constat qu'on a fait depuis toutes ces années, à parcourir ça partout dans le monde, 95% des plastiques qu'on voit sont microscopiques. Hein. Mm-hmm. On parle même de nano, vous avez dit. Des, mm-hmm. On parle des textiles, en fait, ouais. Des textiles synthétiques, hein, que vous allez mettre ça à la machine. Mm-hmm. Beaucoup de machines à laver. Malgré nous, finalement, ça va dans le circuit d'évacuation d'eau et ça va dans les centrales d'épuration qui ne les arrêtent pas et qui continuent.
Et c'est fou parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que 95% de ce qu'on trouve en plastique, ce sont des microplastiques, des nanoplastiques. Petits. Ça veut dire que, à côté de ça, le fameux continent de plastique, effectivement, en fait, c'est rien.
Il est fait de microplastiques, ouais.
Mais en fait, c'est rien. Les bouteilles qu'on voit traîner, les plastiques, toutes ces choses qui sont très impressionnantes visuellement. Est-ce que ça veut dire que c'est même pas ça le plus grave, en fait, ou pas?
Ben, en fait, c'est des choses qui se fragmentent. Et on a longtemps cru qu'en fait, ce fragmentation de ces plastiques en mer, elle se faisait en mer. On a cru que c'était les vagues, la mécanique, les rayonnements ultraviolets qui abîmaient tout ça. Et en fait, une étude récente, il y a quelques mois maintenant, sur la Tamise, a publié le fait que finalement, 60% des plastiques qui sortent, plus de la moitié des plastiques qui sortent de la Tamise, sont déjà microplastiques. Donc c'est à terre, entre le moment où on le perd dans la nature et le moment où il se retrouve dans le fleuve et qu'il arrive à la mer, qui se fragmente en fait en
et
morceaux.
Ça non plus, on ne sait pas comment on peut arriver à une... Parce qu'on parle de quoi on ne sait pas de quoi on parle au départ, au fond, pour qu'on en arrive à des nanoparticules.
C'est difficile de voir d'où ça vient, au départ, quel objet c'était. Ouais.
C'est-à-dire que, je vais dire un truc, une hérésie totale, mais on ne peut pas imaginer que c'est une bouteille d'eau d'abord. Ça peut être une bouteille d'eau d'abord qui se transforme en un micro-micro-particule. C'est possible ça ou pas?
C'est possible, sauf que les bouteilles d'eau sont souvent faites en polyéthylène, en fameux PET transparent, qui est plus lourd que l'eau qui coule. Donc cela, en général, on ne les retrouve pas à la surface de la mer.
Et c'est...
On trouve beaucoup d'emballages à la surface de la mer.
Ouais. Ces nano-microplastiques, c'est chargé en quoi, en fait? C'est-à-dire, en quoi... Parce qu'on a bien compris que les poissons les confondent avec du plancton, et les poissons, nous, on les mange derrière. Donc c'est chargé en quoi, tout ça? Est-ce qu'on le sait?
Déjà, c'est la matière plastique au départ. Hein. Parfois, elle est chargée en métaux lourds, en choses... On appelle ça on appelle ça d'ailleurs une charge du plastique. C'est ce qu'on met dedans pour qu'il soit plus transparent, plus mou, plus dur, etc. Des molécules en plus du polymère. Mais surtout, dans ces organismes, dans la mer, finalement, sont des formidables rochers flottants, j'ai envie de dire, pour les micro-algues, pour des bactéries qui... Il y a du soleil, il y a des nutriments dans la mer, et donc ils sont contents, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Et donc, il y a des écosystèmes qui se développent autour de ces petits microplastiques qui finissent par sentir la nourriture, qui finissent par sentir les micro-algues, et que les poissons qui passent par là, ils sentent ce qu'ils mangent avant de manger. Et ça ressemble à la nourriture, donc ils l'avalent.
Parce qu'on sait déjà que le plastique, les sacs qu'on laisse sont très dangereux pour certains animaux. On a beaucoup vu d'exemples de tortues, notamment, qui ingéraient vraiment des morceaux de plastique. Est-ce qu'on sait jusqu'à quel point ces nano ou microplastiques sont nocifs, encore une fois, pour le poisson qui les mange et pour nous qui mangeons le poisson derrière?
Il n'y a pas encore de modèle de tout ça. C'est là la question qu'on se pose. C'est que toutes les questions qu'on pose, nous tous, aux scientifiques, mais est-ce que c'est dangereux pour la faune? Est-ce que c'est dangereux pour nous? Est-ce que ça a un impact sur les écosystèmes? On a encore beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là. On est en retard. Il faut savoir que ce phénomène du plastique, finalement, on l'a découvert il y a 15 ans. On a pris conscience il y a 4, 3 ans, peut-être.
Ouais, c'est vrai. C'est très très récent.
La science y est collée, comme j'ai envie de dire, depuis 4 ou 5 ans, de façon sérieuse, avec des financements. Et donc on découvre, on touche, tout ce qu'on touche sur le plastique, on découvre en fait aujourd'hui. Donc c'est les réponses qu'on pose tous dans le quotidien aux scientifiques, on a du mal à y répondre et il faut vraiment travailler dessus. C'est pour ça que Tara, la fondation et ses partenaires vont mettre beaucoup d'efforts cette année sur les fleuves, pour essayer de comprendre d'où ça vient cette pollution plastique, quel est l'impact de cette pollution plastique sur les écosystèmes dans nos douces, des fleuves, et en eau salée à la sortie des fleuves, où ils se dispersent après en mer en fonction de ce qu'on y trouve, quel plastique il s'agit, du polyéthylène, du PVC, de quoi on parle, quel éventuellement, et si on arrive, peut-être c'est ça l'enquête.
Donc on saura qui est le responsable, c'est une enquête.
On essaye, je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir des éléments probants en une mission comme ça de 6 mois de la Fondation, mais... et du CNRS, mais en tout cas, on va essayer d'avoir des pistes sur savoir de quelle filière ça vient. Est-ce que ça vient des caniveaux, qu'on ne traite pas aujourd'hui en France et en Europe? Est-ce que ça vient des filières industrielles? Est-ce que ça vient de notre quotidien? Est-ce que ça vient de nos autres toilettes? Est-ce que ça vient de... On n'a aucune idée finalement, et on n'a aucune idée de savoir où mettre l'argent public pour essayer de trouver des solutions.
Et on ne sait pas quelle est notre part à nous, en fait, citoyens. Alors, autant pas jeter des trucs dans le caniveau, on est d'accord avec ça, tous les deux. Hein, mais on ne sait pas quelle est notre part à nous, y compris en pourcentage, et celle qui est la part des grosses entreprises et du reste.
On ne sait pas, sauf qu'on est tous... moi, je suis parent de mes enfants le matin, je pars, je suis dans une fondation, d'autres sont employés, employeurs, d'autres sont... on est tous consommateurs, on a tous acheté des choses, et donc on est tous finalement... dans la boucle. Il n'y a pas de mauvais joueurs, je pense pas, il n'y a pas de mauvais et de bons acteurs. Il y a nous tous qui, on doit tous se prendre en main pour essayer de trouver une solution pour consommer moins de plastique, moins d'emballage. Mm-hmm. Chose facile à enlever de notre quotidien, de faire en sorte que nos politiques publiques s'investissent sur ces enjeux de traitement des eaux qui sortent. Voilà, je pense que les solutions sur cette pollution plastique, elles sont à terre, vraiment, aujourd'hui, sur l'économie circulaire, sur ces enjeux qui sont très compliqués.
Romain Troublier, vous le disiez, ça fait depuis 15 ans aujourd'hui que vous sillonnez les maires, que vous essayez de sensibiliser les gens à ce problème. Et effectivement, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'on voit des images, vraiment, enfin qu'on s'intéresse aux images, parce que ça fait longtemps que vous nous les montrez, mais qu'on regarde de très près les images du continent de plastique. Que là, ce que vous nous dites, on le comprend parfaitement, parce qu'on est tous désormais, la preuve en est d'ailleurs, avec ce qu'on fait aujourd'hui, nous, à Inter, et qu'on refera, parce qu'on est tous sensibilisés à ça. Le tournant, vous le situe à peu près où, en fait? Qu'est-ce qui se passe pour que, quand même, enfin, cette prise de conscience, elle existe, même si on est bien d'accord, on a encore beaucoup de boulot à faire?
Je crois qu'il y a une énorme prise de conscience qui a été déclenchée par ces idées de nettoyer la mer. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés récemment sur... je vais y aller, donnez-moi de l'argent ou donnez-moi des fonds, je vais faire un projet pour nettoyer la mer. Et cette idée de solution magique, binaire, elle a beaucoup intéressé les gens, parce que les gens, en fait, aujourd'hui, on cherche tous avoir une issue à tout ça. C'est stressant quand même, tous ces enjeux-là. Le plastique, c'est stressant, mais tout ce qui va en dessous, qu'on ne voit pas, c'est aussi stressant. Et quand on est avec une solution binaire, en disant, je vais nettoyer la mer et on va régler ce problème.
Comme si c'était simple, en fait.
On a envie d'y croire. Et donc tout le monde en parle, parce qu'on a envie d'y croire. Je pense que c'est important de nettoyer les plages. Je pense que c'est un rôle pédagogique majeur pour les enfants et pour, j'aimerais bien d'ailleurs que l'éducation nationale, notre ministre de l'Éducation nationale, fasse un nettoyage de rivières, de lacs ou de plages avec toutes les écoles de France dans les années qui viennent, dans le cursus. Parce qu'en une heure de temps, ils comprennent tout d'un coup.
Vous y allez, vous, dans les écoles avec Tara, et ça, vous le sentez, évidemment.
On y va beaucoup, bien sûr.
Les jeunes écolos, enfin, les tout jeunes, sont plus écolos que nous le sommes, nous, évidemment. Ils ont des gestes qui sont peut-être naturels, alors que ça représente un effort pour nous, au fond.
Ah oui, le monde évolue, ouais, bien sûr, et tant mieux. Et ces gens-là, et ces enfants-là, et tout le monde en général, il faut se dire qu'il y a des solutions. Que ce fléau plastique, ce flux de plastique de la terre vers la mer, on peut l'arrêter. C'est réversible.
Et est-ce que vous avez le sentiment, puisque la prise de conscience, elle existe, même si effectivement on a encore beaucoup de travail devant nous, est-ce que vous avez le sentiment du coup qu'au moins du côté des pouvoirs publics, oui, on travaille en fait? Vous, par exemple, dans vos recherches, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, quand on est Tara et le CNRS, de faire des recherches autour des origines de la pollution plastique, autour de tout ce que vous avez trouvé là et tout ce que vous allez récolter en 6 mois?
Oui, bien sûr, c'est un sujet qui porte beaucoup, c'est pour lequel on trouve beaucoup de financement, parce que tout le monde se sent concerné. Mais c'est aussi un sujet qui cache la forêt, c'est-à-dire que c'est un sujet qui surpasse tous les autres sujets que l'océan rencontre aujourd'hui.
De la forêt.
Ouais, c'est un sujet qui cache tous les autres sujets importants de l'océan aujourd'hui, qui occulte tout ça. Tellement c'est un sujet qui monte, et c'est très bien, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions, et si on peut le faire dans les 10 années qui viennent, ce serait formidable.
J'en profite pour ajouter que la journée mondiale de l'océan, c'est le 8 juin, donc c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, et que là aussi vous lancez un appel à réduire les emballages plastiques. C'est sure. Le moment ou jamais pour le.
C'est plus facile. C'est le plus facile pour nous tous, le plus facile à faire, c'est de réduire notre consommation de plastique et donc les emballages. Et ce qu'on trouve en mer avec Tara depuis 10 ans, c'est du plastique léger, du polypropylène, du polyéthylène. Et cela, c'est du plastique surtout qui est utilisé dans l'emballage aujourd'hui.
Et donc c'est le plastique dont on peut se passer le plus facilement.
Ah bien sûr, c'est très très facile.
Elle est où la goélette, Romain Troublier, en ce moment?
Tara, elle est à Saint-Malo, en escale, pour le festival Tenant Voyageurs de Saint-Malo. Et elle prendra la mer le 8 juin justement, parce qu'il faut aller en mer, travailler. Pour la Londres, pour la Tamise.
Eh ben, écoutez, bon voyage chez nos amis britanniques et autres, parce que donc il y en a 10 des fleuves, vous aurez largement l'occasion de faire des allers-retours, ça va durer 6 mois. Et merci de revenir pour nous en parler,
à bientôt. Troublé.
Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite, tiens, un jour dans le monde, ce sera autour de même thème, et du même thème. C'est pas sans plastique, hélas, mais on y travaille. Nous sommes en Égypte, qui étouffe littéralement, là, pour le coup, sous les sacs, sous les radars, et Amélie Perry avec des uniformes scolaires qui bougent au Mexique avec des transports gratuits en Inde, vous verrez pourquoi, et des verres couchés en Allemagne. Le cinéma en VO, c'est Eva Bétan qui nous raconte La Palme d'Or à Cannes, dont on parle beaucoup. Évidemment, Parasite, ça sort aujourd'hui chez nous. Et puis Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Il y a donc quelque chose de pourri au Royaume du Danemark.
C'est vous qui le dites, en tout cas, il y a un parti.
Shakespeare, monsieur.
C'est ça. Il y a un parti de gauche qui espère gagner aujourd'hui avec en partie des idées d'extrême droite. Iconoclaste, détonnant, précurseur, je pose la question.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini. Il commence à peine. Il passe par Brighton au Royaume-Uni. Comme Tears for Fears, me souffle Fabrice L'Aigle dans l'oreille, car lui s'y connaît en musique, contrairement à moi. Voici The Cooks Around Town.
want someone to be and someone to drive around town. I need someone to love when the chips are down. You're not. If that's the river that you wanna cross, you can choose the life of a bohemian, or you can choose the material world. But all I need is somewhere to lay my head on. Need someone to love in the middle of the day. I need someone to be, someone to drive around town. Someone to love when the chips are down. Oh yeah, love me when the chips are down. Woo. You love me when the chips.
The Cooks, Around Town sur France Inter. Ah ben, autour de quelle ville allons-nous sous les radars?
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasmachio Capillon.
Bonjour dans le monde.
Intervention extra.
Autour de quelle ville, Amélie? Autour de Mexico, parce que notre héroïne du jour est la maire de Mexico.
Oui, elle s'appelle Claudia Sheinbaum. Elle a été élue l'an dernier, première femme à devenir la chef du gouvernement de la capitale mexicaine. Elle est de gauche, c'est une proche du président actuel, AMLO. Et voilà ce qu'elle vient d'annoncer à propos des uniformes des enfants à l'école. Je pense, pardon, dit la maire de Mexico, que le
sens,
voilà, que le sens, alors elle pense que le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est que les garçons peuvent porter des jupes s'ils le souhaitent et que les filles peuvent porter des pantalons. Cela fait partie des efforts pour l'égalité. Car dans les directives officielles aujourd'hui, la jupe est le vêtement de base de l'uniforme des filles et le pantalon est réservé aux garçons. Absurde et dépassé, selon Claudia Sheinbaum. Le nouveau choix vestimentaire entre en vigueur dès maintenant et pourrait s'étendre au-delà des écoles de Mexico, car voilà ce que dit à la même tribune l'équivalent du ministre de l'Éducation, Esteban Moctezuma. Cette ouverture pour l'uniforme sera appliquée partout à Mexico et je suis sûre que de nombreux autres gouvernements régionaux suivront cette nouvelle norme, l'égalité des droits, une entreprise qui mérite notre respect. Voilà ce que dit donc le ministre à la tribune. Un uniforme mixte et transgenre, c'est donc l'avenir au Mexique.
À New Delhi, Amélie, ça n'est pas l'égalité, mais un coup de pouce pour les femmes que la ville veut donner.
Et je vous emmène donc dans le métro de la mégapole indienne.
Agla Station.
Alors voilà, le métro, mais aussi les bus de la ville vont devenir gratuits pour les femmes dans les 2 à 3 prochains mois. Cela concerne 850 000 habitants de New Delhi et c'est un effort financier d'un peu plus de 100 millions d'euros par an. Mais il fallait trouver quelque chose pour ramener les femmes vers les transports publics. Beaucoup ont été traumatisées par le viol d'une étudiante en 2012 par 6 hommes dans un bus. La jeune femme était morte de ses blessures. Les violeurs, depuis, ont été condamnés à mort. Mais cela ne dissuade pas les agresseurs. Les attaques sexuelles se comptent par dizaines de milliers en Inde chaque année. Et encore, le silence de nombreuses victimes ne permet pas d'en mesurer l'ampleur exacte. New Delhi espère, avec la gratuité, redonner leur place aux femmes dans les transports publics et faire aussi baisser la pollution, l'autre fléau des grandes villes indiennes.
Et oui, comme qui dirait, la protection de l'environnement, justement, c'est l'engagement de ces jeunes Allemands.
Qui ont fait irruption dans le Bundestag, l'Assemblée nationale allemande à Berlin. Ils sont arrivés avec des banderoles inscrites dessus. Votre politique climatique, c'est une catastrophe. Et voilà, ils se sont couchés comme morts entre la tribune et les gradins. Certains députés les ont hués, mais ce qui est remarquable ici, c'est la réaction du président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, vous savez, l'ancien ministre des Finances. Alors il dit, ceux qui sont couchés là, je leur dis, si nous étions maintenant dans une vraie session du Bundestag, je devrais en quelque sorte m'assurer de vous faire partir. Mais là, maintenant, je vais vous dire, restez là, allongés, calmement. Et voilà, Choc Bleu applaudi par une bonne partie des députés et par les jeunes manifestants surpris d'une telle bienveillance. Écoutez ce que dit celui-ci quand même à la sortie de l'hémicycle. La réaction de Choc Bleu est cool, mais le cool n'est plus ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de panique. Panique dans le bon sens du terme, dit ce jeune, dans le sens le plus constructif pour maîtriser la crise climatique. Car ils veulent être pris au sérieux, ces jeunes, et vont continuer leurs actions pour protéger la planète. La bienveillance ne suffit plus, voire la condescendance parfois peut-être. Eux réclament une révolution verte des actes de la politique au sens le plus noble du terme.
Voilà, merci beaucoup Amélie Perrier. Tout cela nous ramène, bravo, quel talent de la transition quand même directement.
Ouais, ouais. Ah, il y a du travail.
À notre thématique du jour, je vois ça.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo, Beyrouth, France Inter.
Retour à notre thématique plastique, donc c'est en Égypte que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Et croyez-moi, du plastique, ici, il y en a. Il fait même partie intégrante du paysage, collé dans les branchages où pèsent les animaux, dans le Nil, dans les fonds marins. C'est un fléau total qui a des conséquences évidemment sur l'environnement, sur l'économie, sur le tourisme. En mer Rouge, les récifs coralliens étouffent. Sur la côte méditerranéenne, c'est pas mieux. Bonsoir Nadia Blétry.
Bonjour Fabienne.
Bonjour à vous. Nadia, ça a l'air insoluble chez vous. Et pourtant non, en fait, soyons un peu optimistes, les lignes commencent doucement à bouger.
Le souk de Saïda Zeynab, au cœur de la capitale égyptienne, grouille de monde, surtout pendant l'Aïd, une période de profusion. Nourriture, vêtements, guirlandes, mais aussi sacs plastiques. L'Égypte en consomme 12 milliards par an. Derrière ces étals de légumes, le commerçant Achour Darwish a la plaisanterie aussi facile que la main généreuse quand il distribue ses sachets. Il assure que pendant les fêtes, il peut en écouler jusqu'à 10 kilos par jour. Il n'en est pourtant pas fier.
Du temps de mes grands-parents, on utilisait les sacs en papier et les journaux. Mais ces sacs en plastique sont liés au développement de notre monde. Ce n'est d'ailleurs pas le meilleur des développements. C'est mauvais pour tout. Le portefeuille, l'estomac et tous les usages qu'on peut en faire. Mais il n'y a pas d'alternative.
En face de lui, sa cliente Marwa est encombrée de petits sachets colorés.
Chaque jour, j'apporte des choses à la maison, dans au moins 5, 6 ou 7 sacs plastiques. Parfois, je les jette. J'en ai trop parce que j'achète beaucoup de choses.
Des sachets fabriqués à base de pétrole, qui finissent parfois chez les Abalines, le quartier des chiffonniers où est collectée une grande partie des ordures du Caire. Ici, le plastique occupe une place centrale. Tout commence dans un atelier où de jeunes hommes aux vêtements abîmés trient par couleur des récipients de toutes les formes. Le but, recycler cette matière pour la revendre aux entreprises égyptiennes. Une activité rentable et utile selon cet homme d'affaires qui possède une petite usine de transformation du plastique.
Je travaille à réduire le plastique en grains. On le casse en petits morceaux, on le lave, ensuite on le sèche et après on le fait passer dans une machine qui vient de Taïwan et qui transforme le plastique en petites billes.
Pourtant, dans les faits, seule une partie infime du plastique est recyclée. Dans les villes ou villages périphériques, cette matière polluante se fond littéralement dans le paysage, profondément incrustée dans le sol. À quelques kilomètres au sud du Caire, c'est déjà la campagne. Des monceaux d'ordures jonchent le bas-côté de la route, faute de ramassage. La population se sent oubliée, comme Adam, un étudiant très critique.
Malheureusement, notre gouvernement, ici en Égypte, ne s'intéresse qu'à une chose, développer son économie et attirer des investisseurs étrangers, c'est tout. Il n'a absolument pas envie d'améliorer l'environnement ou de sensibiliser la population à la question, ni même de travailler aux affaires internes du pays.
Dans la localité d'Aboussir, au sud de la capitale, les maisons sont bâties devant un canal d'irrigation. Sur plusieurs kilomètres, l'eau est envahie par des déchets, jetés par les résidents. Essentiellement du plastique, bouteilles vides, sachets, pots de yaourt. Yasmine Mohamed, une mère de famille, porte un regard sans concession sur son environnement.
Ce qu'on voit là, ce sont juste des déchets, des poubelles, à la place de l'eau en fait. Bon, en fait, il n'y a même plus d'eau. Il n'y a que des poubelles. Toute cette pollution, elle affecte tout le monde, les grands comme les petits. Il n'y a plus de ramassage. Les camions viennent quand ils veulent. S'il y avait des bennes, au moins, on jetterait nos déchets dedans, et pas dans le canal. Mais on est obligé d'agir ainsi, parce qu'on n'a pas d'autre choix.
En Égypte, les villes côtières sont elles aussi asphyxiées par le plastique, comme les animaux marins qui ingèrent cette substance nocive et finissent dans nos assiettes. Dans un café du Caire, Ahmed Yassine explique qu'il est urgent d'agir. Originaire d'Alexandrie, la grande ville méditerranéenne d'Égypte, le jeune homme est l'un des fondateurs de Banlastic, une petite entreprise environnementale. Au programme, nettoyage de plages, sensibilisation de la population au danger du plastique sur l'environnement et vente de sacs en toile réutilisables pour remplacer les sachets plastiques. Banlastic milite pour obtenir d'ici 2030 l'interdiction du plastique à usage unique en Égypte.
J'ai envie de dire aux Égyptiens, en particulier et au monde en général, adoptez l'idée de la réutilisation. Évitons le plastique à usage unique. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons, ce qui est vraiment une honte. Nous, chez Banlastic Égypte, on lutte contre le plastique à usage unique. Ça abîme notre écosystème marin. Ce n'est pas biodégradable et ça peut se maintenir entre 300 et 1000 ans dans l'environnement selon la matière utilisée dans le plastique à usage unique. Project.
Depuis le 1er juin, le gouvernorat de la mer Rouge, une importante région du tourisme balnéaire égyptien, a interdit l'utilisation du plastique à usage unique, une première dans le pays.
C'est avec des premières comme ça qu'on avance justement au fur et à mesure. Nadia Blétry pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Ah ben Blik Bassi, il a presque son rond de serviette celui-là dans Un jour dans le monde. Il est sur la playlist de France Inter, ça s'appelle Wani.
Sogol we ma binengeli kere wongi, loyem binengeli kere wongi. Ngeni yesri yibe yo, basori nigil nibe yo. Loyes biwele ni kere wongi, onge ba biwele ni munu wongi. Loyesi ho. Inyonyo ninyo Ilo yesi ho Iho ni mao Ilo yesi minenge likere wongi Papire din chomo kikipitong bimo Inge mwemo kibiperne ni munu wongi Inyobe abiwel ni besgi wongi Hatango nge Kirne ni kere wongi Ilong yesi ho Inyonyo ninyo Ilong yesi ho Iho ni mao Ambombo kala ni me Ilong yesi ho Iho ni wongi Yele Ilong yesi ho Long yes, you are in your demand.
C'est vrai qu'ils nous emmènent loin, Blik Bassi et Wony sur France Inter. 3, 2,
1, let's go. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action! Le cinéma en VO, Eva Béton, bien sûr, et sur les écrans aujourd'hui, Eva, la Palme d'Or, le film Parasite du coréen Bong Joon-ho, donc le fossé entre les classes sociales vues de manière brillante, et puis c'est la première fois qu'un cinéaste coréen obtient la Palme d'Or, bande annonce d'abord.
Yo, 윗집 아줌마는 IP 타임.
와이파이도 다 끊기고.
어, 여기 있네.
쏟아지는 와이파이를 축하합니다.
그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고.
이거 이거 없으셔도.
근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아?
Alors Eva, il y a déjà eu beaucoup de littérature hein, sur ce film, une palme d'or coréenne, c'est pas un accident. Lorsque la palme d'or avait déjà été donnée il y a quelques années, c'est... J'ai perdu la ligne, Eva Béton, au sujet de ce film coréen. Allez, on vous écoute.
Bonjour, oui, c'est vrai, une palme d'or coréenne, j'ai envie de dire, ce n'est pas un accident. Il arrive que un artiste, comme par exemple Apichatpong Weerasethakul, le Thaïlandais, obtienne la palme d'or, mais c'est un individu, un artiste isolé, il n'y a pas toute une filmographie derrière. La Corée, c'est autre chose. Le cinéma coréen va filmer ses 100 ans, mais aussi, on a vu arriver, il y a une vingtaine d'années, toute une génération de cinéastes qui s'est emparée des genres, qui a montré un style brillant, et ça a correspondu avec la fin du régime autoritaire en Corée. Bong Joon-ho, là, parle, vous l'avez dit, de manière très brillante des classes sociales, avec le mélange des genres, c'est sa patte, c'est pas du cinéma désincarné, avec une forme qui est la sienne. Il parle de la situation de son pays, et ce dont il parle concerne aussi beaucoup de pays. Bong Joon-ho.
Il y a eu une démocratisation en Corée dans les années 70-80. Il y a une évolution économique depuis des décennies. Le pays est beaucoup plus riche, certes, mais l'écart devient de plus en plus grand entre les riches et les pauvres. Et ce n'est pas un problème propre à la Corée, c'est un problème d'envergure mondiale, c'est un système qui ne fonctionne pas. J'aimerais que ce problème trouve une solution, mais je ne suis pas très optimiste. Je ne crois pas qu'on arrivera à améliorer les choses de manière à ce qu'il y ait une meilleure coexistence entre les classes sociales. Je ressens de la tristesse, de l'angoisse, et je crains de ne pas voir d'ici ma mort la situation s'améliorer.
Allez, voilà ce que je n'étais pas du tout censé dire tout à l'heure. Il y a 2 ans, Bong Joon-ho a été partie prenante d'une polémique à Cannes, on s'en souvient. Son film était en compétition officielle, mais c'était un film Netflix.
Oui, parce qu'un film Netflix ne sort pas en salle, c'est comme un coffre-fort si vous voulez. Et en France particulièrement, à cause de la chronologie des médias qui est contraignante. Depuis, le Festival de Cannes a décidé de ne pas mettre en compétition de film qui n'a pas vocation à sortir en salle, donc pas de film Netflix. Ce film-ci de Bong Joon-ho a été financé classiquement. Je lui ai demandé quand même quel bilan il faisait de cette collaboration avec Netflix.
Effectivement, c'était un projet à grande échelle, mais ce qui m'a quand même plu avec Netflix, c'est qu'ils m'ont donné la possibilité d'avoir le final cut en tant que réalisateur. Cette liberté était très appréciable. Mais c'est vrai que sur le sujet de la sortie du film en salle, c'est une question qui se pose. Mais en tant que réalisateur, si j'ai l'occasion de retravailler avec eux, je serai très heureux de le faire.
Le fait que votre film n'ait pas été vu en salle ne vous dérange pas?
Le film est quand même passé dans quelques salles, peut-être pas en France. J'ai fait beaucoup d'efforts avec Netflix pour essayer de négocier qu'il soit donné dans quelques salles, mais cela n'a pas été très efficace. Mais j'espère que l'avenir, Netflix aura plus de compréhension pour proposer davantage de projections en salle. C'est bien que tout le monde puisse le voir sur Netflix, mais en tant que réalisateur, c'est vrai que ça me chagrine un petit peu qu'il ne soit pas passé dans beaucoup de salles de cinéma.
Et je dois ajouter une chose très importante, vous allez prendre un plaisir fou à voir ce film.
Eh ben, on est ravis, on va y aller, évidemment, Eva Béton, maintenant qu'on a tout remis dans l'ordre, Parasite, évidemment, de Bong Joon-ho, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.
Le Monde à l'envers. Jean-Marc Four, Jean-Marc, le Danemark vote aujourd'hui. Ce sont les législatives. Le Parti social-démocrate de centre-gauche part favori et fait assez inattendu. Il a fait campagne en reprenant sur l'immigration les positions de l'extrême droite. C'est votre Monde à l'envers.
Oui, d'abord, on se dit pourquoi diable s'intéresser à ce petit pays d'Europe du Nord de 6 millions d'habitants? Eh bien, parce que, effectivement, même si une surprise de dernière minute est toujours possible, les résultats s'y annoncent déroutants. Les sociaux-démocrates, dans les derniers sondages, étaient crédités de 27% des intentions de vote, largement devant le centre droit, 10 points derrière, et donc en position de former une coalition avec d'autres partis de gauche. Déjà, c'est quand même en soi un petit événement, vu l'état pathétique de la social-démocratie en Europe. En plus, au Danemark, le centre droit domine largement le paysage politique depuis près de 20 ans. Mais surtout, donc, le fait le plus surprenant, c'est le choix du centre gauche sur l'immigration. Virage à 180 degrés, effectué à l'initiative de sa nouvelle leader, Mette Frederiksen, 41 ans. C'est simple, elle s'est alignée sur les préconisations de l'extrême droite, déjà en partie mise en œuvre ces dernières années. Alors, pêle-mêle, limitation drastique du regroupement familial, peines aggravées pour les immigrés en cas de délit, recours systématique au permis de séjour temporaire, je peux vous en donner encore, saisie des effets de valeur des migrants, notamment leurs bijoux, mais oui, proposition de camps de rétention sur le sol danois, de camps de triage à l'extérieur de l'Union européenne, vous rêvez pas, c'est bien la gauche qui parle. Et ça marche. Les sociaux-démocrates ont siphonné toute une partie de l'électorat populaire de l'extrême droite qui, elle, semble en perte de vitesse. 20% il y a 4 ans, annoncé à 10% cette fois-ci. Donc ses idées ont gagné, mais elle est en train de perdre.
Donc on se retrouve quoi, avec un parti de gauche devenu d'extrême droite, c'est ça l'idée?
Et c'est plus compliqué. Et c'est là que ça devient encore plus iconoclaste. Dans son programme électoral, qui fait 42 pages, Mette Frederiksen ne parle pas que de l'immigration, évidemment. Elle met aussi l'accent sur deux autres sujets. D'abord, le climat. C'est devenu la préoccupation principale des électeurs au Danemark, en particulier chez les moins de 40 ans. Et là, les sociaux-démocrates adoptent en grande partie le point de vue écologiste, aux antipodes pour le coup de l'extrême droite danoise qui est climato-sceptique. Au Danemark, 35% de l'énergie provient déjà des renouvelables. Mette Frederiksen veut aller plus loin, s'attaquer au lobby de l'agriculture porcine qui est très influent là-bas et taxer le transport aérien. Troisième axe, après le climat et l'immigration, le social. Et alors là, cette fois, les sociaux-démocrates se placent clairement dans une tradition, on va dire, de gauche classique. Améliorer la redistribution, augmenter les dépenses en faveur de la santé et de l'éducation, favoriser les départs à la retraite anticipés pour les métiers à forte pénibilité. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle peut raisonnablement espérer obtenir le soutien des autres partis de gauche en vue de former un gouvernement de coalition. Donc on se résume, il y a là un mélange détonnant, transgressif. Si on prenait une comparaison en France, on dirait que c'est un candidat qui mixe les programmes de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.
Donc
vous
ça
voyez
fait quand même très très opportuniste quand même cette affaire. Non?
Alors c'est peut-être de l'opportunisme en effet, style je prends les trois sujets de préoccupation dans l'air du temps, l'immigration, le climat, l'économie, et je défends sur chacun de ces thèmes les propositions les plus démagos pour attirer plein de voix d'électeurs très différents les uns des autres. Quand on écoute ce que dit cette femme, Mette Frederiksen, il y a davantage. C'est-à-dire que là où nous, avec notre grille de lecture française, on voit un fourre-tout d'idées totalement incompatibles, elle, elle voit au contraire un corpus de pensées cohérent. Elle affirme, je cite, « Cette approche est la seule possible aujourd'hui pour que notre société fonctionne. À la fois fermer les frontières, protéger l'environnement, redistribuer les ressources pour éviter les tensions sociales. » Sur l'immigration en particulier, j'y reviens, Mette Frederiksen justifie sa position en estimant que c'est la seule façon d'être de gauche aujourd'hui parce que ça permet de protéger l'électorat populaire. Il y a quelque chose là-dedans qui relève du laboratoire politique. Je ne sais pas si c'est précurseur, mais ça fait très laboratoire. Et vous comprenez maintenant pourquoi ce vote au Danemark n'est pas anecdotique et pourquoi, à un moment où les partis traditionnels de centre-gauche comme de centre-droit sont en pleine crise en Europe occidentale, beaucoup d'états-majors en Europe font surveiller avec attention ce soir les résultats à Copenhague.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis, le téléphone sonne. Ne bougez pas, on s'occupe de tout.